On commence par fermer les yeux. On ferme les yeux parce que quand on a les yeux fermés, on voit mieux. Vous avez remarqué ça? Mieux je ferme les yeux, plus je vois. Alors fermez les yeux et regardez le paysage autour. Les arbres, les rochers, la pente. Regardez bien, les yeux fermés. Sentez bien l'endroit. Quand vous regardez avec les yeux fermés, vous allez aussi entendre autrement. Écoutez. Ce repli de montagne, il remonte à quand? Sentez son âge, il est vieux. Pas si vieux, mais il est vieux. Prenez un arbre qui est proche de vous. Remontez jusqu'à sa naissance. Tous les arbres ont commencé avec une petite graine. Ça, ce sont des arbres qui ont poussé tout seuls. La petite graine est tombée dans la terre. Il y avait juste assez de terre pour qu'elle puisse s'enterrer. Il y a eu toute l'humidité nécessaire à un moment donné, pas forcément le moment où elle est tombée. Et la plantule a poussé. Donc vous avez un arbre qui est né d'une petite pousse. Il y a des arbres ici qui sont des jeunes arbres, des arbres plus âgés. Il y a des arbres qui sont centenaires. Il y a des arbres qui vont vivre encore très longtemps, d'autres pas. Sentez les différents âges de ces arbres. C'est vénérable l'arbre, parce que même jeune, ça porte une sagesse millénaire. En général, les arbres ont des cycles assez longs. Par rapport à nous. Peut-être pas les arbres fruitiers, mais les arbres des forêts. Donc ces arbres étaient là bien avant que nous ne soyons nés, pour une part d'entre eux. Ces arbres risquent d'être encore là quand on sera plus là. Ils vivent plus longtemps que nous. Un pommier, un cerisier, il a une tranche de vie beaucoup plus courte. On peut planter un cerisier, le voir mûrir, le voir fleurir et donner beaucoup de fruits pendant des années, et en voir aussi qu'à un moment donné, il s'épuise dans la même vie. Prenez maintenant les cailloux qui sont là. Ce n'est pas des grands rochers comme l'autre jour, ce sont des petites roches. Ces roches-là aussi, elles ont un âge. Les rochers, c'est différent. Ça n'a pas une vie qui change beaucoup. C'est une sorte de présence immuable. Appréciez l'immuabilité de leur présence, leur force. La force du minéral, c'est d'être là, immuable. Qu'est-ce qu'ils racontent, les minéraux? Ils portent des structures. Ils portent des structures. Leur force, c'est d'être la mémoire des structures. Peut-être qu'avec ces minéraux, des cailloux qu'on taille, on va faire des maisons. C'est ce qu'on a fait ici pendant longtemps, des maisons en pierre. Mais ce n'est pas tellement ces structures-là dont je parle. Ils ont la connaissance immuable, comme leur vie, des structures de ce qui est. Sentez ça. Les arbres connaissent d'autres choses. Mais les minéraux connaissent, portent, gardent, préservent les structures. Les structures comme celles dans l'eau qu'on avait vues l'autre jour. Tous les petits flocons de neige qui ont des formes hexagonales, qui ont une structure à 6 branches. Ce genre de formes. Les formes visibles et invisibles. Les formes du très grand, comme les constellations dans le ciel, et les formes toutes petites, comme la géométrie compliquée qu'il y a quand on coupe une carotte en tranches, en rondelles. Les structures, ce sont les minéraux qui les portent. Et revenez aux arbres. Ce que les arbres nous portent, nous donnent, et ça c'est prodigieux, parce que c'est ce qui nous manque essentiellement, c'est pour ça que nous nous nourrissons quotidiennement de végétaux, eux, ils sont les gardiens de la présence. Ils savent comment on fait pour être. Les arbres, ils n'ont pas pour objectif de devenir quelque chose. Ils naissent et ils sont. Ils n'ont pas pour objectif d'acquérir des biens, des savoirs. Ils sont un bien inestimable et une sagesse inestimable. Un arbre, il porte son essence. Donc ici, on a des frênes, on a des hêtres, on a des châtaigniers, par exemple. Ils ne sont pas en rivalité les uns envers les autres. Peut-être pour la pousse, pour la quête du soleil, quand ils sont trop près les uns des autres, et encore, ils se soutiennent. Mais quand il est question d'être un frêne ou un hêtre, c'est pas mieux d'être un frêne qui va être plus grand qu'un hêtre qui va être plus large. C'est simplement une autre essence. Donc il y a une perfection dans l'essence de l'être, du être, comme il y a une perfection dans l'essence de l'être, du chêne et de tous les autres arbres. Donc eux, ce sont les gardiens de être. Nous, nous nous sentons, nous nous croyons parfois plus avancés que les végétaux, comme si dans l'évolution, il y avait eu une progression de végétal à autre chose. Nous nous sentons aussi plus avancés que les animaux. En réalité, les végétaux nous montrent tout le temps quelque chose qui nous arrive de vivre seulement très rarement, la pleine présence. Au point qu'on a même développé des techniques qu'on appelle maintenant pleine conscience, qui est l'art d'être comme un végétal. À la différence que le moindre brin d'herbe autour de nous le fait tout le temps, en fait tout le temps l'expérience. Pleine présence, pleine conscience. Alors, sentez autour de vous aussi bien les petits brins d'herbe à peine sortis de terre que les grands arbres autour de nous. Ils sont tous des véhicules, des porteurs, des gardiens de cette pleine présence. Ils n'ont rien à apprendre, ils le savent. Le règne végétal n'est pas là pour apprendre. Ce n'est pas un type d'incarnation, ce n'est pas un type de vie dans lequel il y a une progression vers quelque chose, une évolution. C'est un état pleinement vécu. Sentez bien ça. On a le minéral, gardien des structures, on a le végétal, témoin et gardien de la présence. Et maintenant, on a le monde animal. Écoutez les animaux qui piaillent un peu plus loin. Écoutez les oiseaux. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'autres animaux à proximité. Le monde animal. Il est gardien de toute autre chose. Il porte la connaissance sans faille du flux. Du flux, exactement la chose qui pour nous est difficile. Rester en contact avec ce qui est. Évoluer dans ce qui est, évoluer dans le sens de se déplacer, mais aussi se transformer progressivement. Il y a une forme d'évolution dans le règne animal. Mais il y a une complète adéquation avec le flux, c'est-à-dire il y a une complète immersion dans le milieu, que ce soit un milieu marin, un milieu aérien, un milieu terrestre, qu'on soit cavernicole ou qu'on vive dans les airs, il y a une complète adéquation avec le milieu. Pour certains êtres, il y a la capacité de passer d'un milieu à un autre, comme un têtard qui devient une grenouille, comme une libellule qui devient un papillon, etc. Il y a une adéquation à un milieu et il y a une capacité d'être dans une fluidité par rapport à ce milieu. Un chevreuil qui vit ici, il est là. Il vit avec l'environnement, il est en symbiose avec les arbres, il est en symbiose avec les cailloux. Il ne se prend pas pour un caillou ni pour un arbre, il sait qu'il est, il a une conscience d'être un autre genre d'être. Il n'a aucune difficulté à entrer en contact avec un végétal ou avec un minéral. Et il connaît tous les chemins qui lui permettent d'être au mieux lui-même, animal. C'est d'une perfection phénoménale. On pourrait être une coccinelle et savoir ça aussi, un petit scarabée et le savoir également. On pourrait être un gros sanglier et même un cochonglier, qui est le nom des sangliers croisés avec les cochons qu'on a ici. Donc une invention de l'homme, on met ensemble deux espèces et on obtient un hybride. Donc le cochonglier, c'est ni un cochon ni un sanglier, c'est un être intermédiaire. Et il garde une adéquation totale avec son milieu. Le fait qu'il ait été manipulé dans sa reproduction, normalement ils ne se reproduisent pas comme ça, ils se reproduisent dans leur propre espèce, ne l'empêche pas de garder une adéquation avec le milieu. Complète. Un savoir inné de comment on fait pour vivre. De comment on fait pour vivre quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, quand c'est l'été et qu'il fait trop chaud, quand il fait beaucoup de pluie, quand il pleut jamais. Donc trouver de l'eau, se protéger du froid, se protéger du chaud, et ainsi de suite. C'est absolument évident. On sait. Comment on sait ? On sent. De l'animal, nous avons l'instinct. Il est un petit peu atrophié, mais nous l'avons. Du végétal, nous avons la capacité de présence. Du minéral, nous portons les structures. Et pourtant, humains, nous avons autre chose. Nous avons la possibilité de vagabonder, d'aller et de venir, d'aller au-delà de notre champ d'action, de naissance par exemple, de changer de pays, de changer d'environnement. Nous pouvons nous adapter à beaucoup de choses différentes. On appelle ça le libre arbitre, la possibilité de passer par des tas d'étapes et de vivre des tas de choses différentes. Il y a un avantage à cela, c'est la liberté. Il y a un inconvénient à ça, c'est la fragilité. L'humain, dans la nature, il est l'être le plus fragile qui soit. Il est fragile à la façon d'un oisillon, à la façon d'un jeune chevreau. Il ne peut pas se débrouiller tout seul, sans avoir appris ou retrouvé comment on était avec la nature. Donc il a l'avantage de sa liberté, de son autonomie, et il a l'exigence, et ça c'est sa nature profonde, d'une transformation. Parce qu'à la différence de l'animal, l'animal c'est une voie, c'est une façon d'être, c'est une façon d'être vivant sur Terre, mais l'homme c'est une autre façon d'être sur Terre. L'animal, il n'est pas là pour évoluer, il est là pour être en pleine harmonie avec tout ce qui est. Il le démontre pour nous, ça nous sert de repère. De la même façon que les végétaux et que les minéraux nous montrent des choses. Mais l'humain, il est là pour faire une expérience qui lui permette de se transformer. Certains humains cherchent davantage la transformation, d'autres moins. Mais tous les humains ont la possibilité, et ça va dépendre de leur cycle personnel, de faire des bonds en avant. Alors, quand est-ce qu'on fait des bons ? On fait des bons quand il y a une exigence de transformation parce que là où on est ne nous convient pas. Il y a une sensation de malaise, de mal-être. Il y a une souffrance, il y a une insatisfaction, il n'y a pas de plénitude. Chaque fois qu'on est mu par une insatisfaction, on est tenaillé, on est tiraillé, on est titillé à l'intérieur jusqu'au moment où il y a quelque chose qui bouge. C'est ça qui nous fait évoluer. À ce moment-là, on entre dans un cycle de transformation qui nous fait passer d'un plan au plan d'après. C'est comme une spirale. Dans une spirale, on fait un tour de la spirale et on se retrouve à avoir une spirale plus vaste sur un échelon plus haut. Quand on est en parfaite adéquation avec son milieu, on va se retrouver tranquille, un peu à la façon de l'animal qui jouit d'une parfaite aisance à être dans son milieu. Il y a des personnes qui passent leur vie entière à être en adéquation avec leur milieu et qui ne ressentent pas le besoin d'évoluer beaucoup, de changer beaucoup. Pour qui, ce qui est et convient. Il y a des personnes pour qui, du moment de la naissance au moment de la mort, il y a une inadéquation et une soif inextinguible de toujours aller plus loin, chercher plus haut, chercher ailleurs. Ce ne sont pas les mêmes genres d'incarnation, bien que ce puissent être les personnes de la même famille. Vous pouvez avoir parmi votre fratrie, parmi vos proches, des gens qui ont une nature d'existence, un type d'existence complètement différent du vôtre. Ça rend la communication parfois délicate et ça complexifie les loyautés qu'on a envers notre sang, ceux qui portent le même sang que nous. Et c'est aussi la limite de la loyauté, c'est-à-dire qu'on est loyal envers son sang par défaut, mais quand on se rend compte de l'exigence intérieure, il peut arriver qu'on doive se désolidariser de la loyauté du sang pour être loyal à une exigence plus profonde qui est celle de l'être. C'est plus important. Parce que si l'appel est à évoluer, rester loyal envers, par exemple, son milieu de naissance, ça nous oblige à nous étioler. Ce serait comme une plante en pot qui a besoin d'un pot plus grand et qui reste dans un pot petit. Au bout d'un moment, elle va crever. C'est pas nécessaire de crever par loyauté pour notre famille ou pour nos ancêtres. Donc, il y a parmi les êtres qui vivent sur Terre, qu'on appelle des humains, des êtres qui sont en grand mouvement d'évolution et d'autres moins. C'est une question de cycle. Quand on est dans une existence où on évolue peu, il est probable que dans l'existence précédente, on ait fait un énorme chemin. Donc les chemins d'évolution se font par phases, un peu comme marcher ou un peu comme monter des escaliers. On monte la marche, on est sur la marche. On monte la marche, on est sur la marche. Si on a une exigence de monter sur la marche suivante, c'est qu'on est probablement en train d'évoluer. Si on n'est pas dans cette démarche-là, c'est probable qu'on soit en train de se reposer, d'avoir fait quelque chose d'important avant, ou de se préparer à faire ultérieurement un grand saut. Donc il n'y a aucun jugement sur qui avance et qui n'avance pas. C'est juste pas la même phase. Maintenant, il y a des cycles plus grands qui sont ceux de l'humanité tout entière. Et par exemple, on a maintenant une époque dans laquelle un très grand cycle qui concerne l'ensemble des humains sur Terre est accompli. Et on passe à un autre jeu. C'est comme si on avait terminé de jouer au Monopoly et qu'on allait apprendre à jouer à un autre jeu. L'image d'une Monopoly est peut-être pas si mal, parce que le Monopoly, c'est associé au jeu avec l'argent. On a toute une série de jeux qui ont été joués depuis très longtemps, qui ne correspondent plus tellement à ce à quoi nous aspirons. Et il y a de ce fait une sorte de soif plus globale, qui est collective dans le sens qu'elle est partagée par un certain nombre, même si ce n'est pas majoritaire, qui demande autre chose, qui aspire à autre chose. Et même si la majorité des gens n'aspirent pas du tout à ça, il n'est pas question d'une majorité absolue, il y a un groupe de pionniers et de gens qui aspirent suffisamment important pour bousculer et pour forcer le reste à bouger. Quand je dis forcer le reste à bouger, ça ne veut pas dire que tout le monde est sorti de ses gonds. C'est comme dans le Tour de France, il y a toujours le peloton de tête avec celui qui a le maillot jaune. Et derrière, il y a la masse du peloton, de tous les coureurs de capacité très bonnes parce qu'ils font le Tour de France, mais qui ne sont pas en tête. Et puis il y a du côté de la fin la queue du peloton. Ce sont des gens tout aussi doués, mais qui ne sont pas en tête de peloton. Donc quand il y a un grand changement, il y a toujours des gens qui sont en tête et qui poussent, ou qui creusent, ou qui préparent le terrain, ou qui, etc. Et il y a une grande masse de gens qui suivent, et il y a des gens qui suivent un peu presque malgré eux, presque passivement. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Il y a une grande poussée évolutive, comme quand les pousses, les germes des petites graines sous terre sortent et donnent naissance à quelque chose qui va devenir une plante. Et puis, derrière cette grande poussée, il y a un mouvement qui est engendré. La poussée, c'est pas le fait de chacun, c'est ceux qui cherchent. Et la réponse à la poussée, c'est quelque chose qui a à voir avec le lien qu'il y a entre tout ce qui vit. Quand on crée un mouvement, par exemple quand il y a une dépression atmosphérique, ça crée un mouvement de vent dans une direction. Et quand il y a un mouvement dans une direction, il y a forcément un mouvement opposé dans une autre direction. Alors, ce n'est pas tout à fait de la même façon exactement, parce que ce n'est pas un mouvement dans une direction opposée. Mais quand une grande dépression est créée et que ça entraîne un mouvement de vent, tout ce qui est dans la zone de captage de ce vent va être mis en mouvement. Et c'est ça qui se passe avec l'humanité pour l'instant. Toute l'humanité est mise en mouvement, qu'elle soit consciente ou pas. Parce que certains pionniers cherchent à faire bouger les choses. Pourquoi ? Parce que leur nature, c'est d'être dans cette insatisfaction de ce qui est et dans cette quête de ce qui pourrait être, qui serait mieux. C'est leur nature. Ils sont nés comme ça. Ce n'est pas une maladie. Ils sont nés comme ça. Alors, ça, ce sont des cycles plus grands. Ce sont des cycles qui se chiffrent en centaines de milliers d'années. Centaines de milliers d'années, ça fait vraiment beaucoup plus long que la vie d'un grand cèdre. C'est très long. Ça a à voir avec des cycles encore plus grands, qui sont ceux des astres. Et pas des astres qui tournent autour du Soleil. Même pas la planète dont je vous parlais hier qui met 11 000 ans à tourner autour du Soleil. Ça a à voir avec les mouvements des astres de notre système solaire, qui est un tout petit truc, avec d'autres systèmes solaires qui font partie de la même galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Donc les mouvements relatifs entre plusieurs systèmes solaires qui font partie de la même famille, et les mouvements plus importants encore qui se passent entre plusieurs galaxies. Et ça crée des cycles un peu à la façon de grands rouages et de petits rouages. Comme dans une mécanique horlogère où on a de tout petits rouages, de moyens rouages et de grands rouages qui donnent l'exactitude du temps. Donc de la même façon dans l'organisation du cosmos, du moins comme nous le connaissons pour l'instant, à l'échelle où nous le connaissons, il y a une organisation mais d'une beauté sublime, comme une mécanique horlogère ou comme un mandala ou comme quelque chose de ce genre-là, d'une harmonie parfaite, qui est constamment en mouvement et qui change tout le temps. Et nous sommes juste à un changement de rouage. On a fini d'accomplir un petit cycle et on entre dans un nouveau petit cycle. Ça déclenche un tout petit mouvement dans le cycle moyen, c'est-à-dire que la roue moyenne, elle bouge d'un cran. La très grande roue, elle ne bouge pas pour l'instant, parce qu'on est déjà engagé dans quelque chose depuis quelques milliards d'années, et ainsi de suite. Alors nous qui vivons ici, sur Terre, tous les jours, nous avons à l'intérieur de nous l'exact équivalent de ça. Le grand cycle, c'est le cycle que vit notre corps. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour une femme de comprendre mieux le cycle de la femme. Nous avons également des cycles cellulaires qui sont extrêmement précis, complexes, et dont nous pouvons comprendre la nature de façon à mieux organiser le grand et le petit. Et au niveau particules, au niveau quantique, nous avons... une mobilisation particulière et des mises en relation entre différents plans qui n'ont pas toujours eu lieu avant, qui nous permettent de faire des sauts, qui nous permettent de mettre en relation, qui nous permettent de résoudre, qui nous permettent de trouver et d'innover des choses qu'on avait, d'innover en trouvant des choses qu'on n'avait pas encore remarquées avant. L'innovation qu'on a, c'est-à-dire... Par exemple, dans le monde scientifique en ce moment, dans tous les domaines de recherche de la science, on n'arrête pas de faire des découvertes, en tout genre, qui mettent complètement en cause tout ce qu'on avait découvert jusqu'à présent, jusqu'à la prochaine découverte qui elle-même fera de même. Cette sorte d'explosion de découvertes, elle vient d'une sorte de dynamique qui s'est installée entre les particules de matière qui font qu'elles n'arrêtent pas de sauter. Elles sautent dans des directions données, mais on ne sait jamais quand elles vont sauter, et elles sautent un peu de façon aléatoire. Chaque fois qu'il y a une rencontre entre deux particules, il y a de nouvelles découvertes qui se font. Alors je l'ai dit à petite échelle, c'est comme si des possibles nouveaux s'éclairaient au moment où il y a une rencontre particulière. Donc à très petite échelle, particules de matière, à très grande échelle, l'organisation du cosmos, on a une série de cycles qui sont parfois très longs, parfois très courts, mais qui sont extrêmement pointus, structurés et qui tous portent une conscience parfaite de l'organisation du tout. Le tout, c'est un. C'est le monde dans lequel on vit. On en a une petite échelle ici, avec un petit coin de nature, où tout est